Un thème qui touche notre espérance chrétienne. Et vous savez quel est le point qui me dérange le plus avec notre espérance chrétienne, finalement ? C'est qu'on ne nous dit pas quand tout ça aura lieu.
Que ton règne vienne,
oui. Mais quand on parle d'espérance, on parle surtout d'avenir, et puis on ne sait pas quand ça va se passer. Et quand on ne sait pas comment ça va se passer, ou quand ça va se passer, ben des fois on peut perdre de vue la finalité. On peut perdre de vue la finalité au point même de douter de notre espérance. Alors si on n'en est peut-être pas forcément là, on a quand même des fois eu le réflexe de dire « bon, c'est loin, on y pensera un autre moment ». Ça vous est déjà arrivé ? Oui ? Ça paraît tellement loin que c'est irréalisable, non ? Alors, je ne suis pas seul. Un exemple concret, c'est l'église de Corinthe. Je reviens aux Corinthiens, parce que je les trouve assez exceptionnels. Depuis le temps qu'on chemine avec eux, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce n'est pas forcément des bons exemples à suivre. Et c'est parce que ce n'est pas des bons exemples que je trouve intéressant de nous référer à eux. Alors, l'enjeu ce matin, c'est la résurrection finale. La résurrection des morts. Les Corinthiens, eux, prétendaient qu'une résurrection des morts ne pouvait pas exister. C'est pas possible. Il y avait beaucoup de malentendus, beaucoup de fausses idées à Corinthe à propos de cette résurrection-là. Je vous passe les détails, mais les Corinthiens mettaient en doute la résurrection des morts. Alors on se dit, ben, ils ont rien compris ces Corinthiens, mais quand même, à leur décharge, on peut quand même se dire que c'est pas facile à se représenter la résurrection des morts, non ? Non, c'est pas évident. On est d'accord. D'autant plus qu'on ne sait pas quand ça va se passer, donc ça va se passer une fois, oui. On y croit parce que c'est écrit dans la Bible, mais est-ce que ça a vraiment un impact sur notre manière de vivre aujourd'hui ? Alors c'est précisément parce qu'on ne parvient pas à se représenter comment les choses peuvent se passer dans le futur qu'on peut être conduit, peut-être comme les Corinthiens, à douter de la résurrection des morts. Et même les Juifs entre eux n'étaient pas tous d'accord. Les pharisiens s'opposaient aux Sadducéens sur ce sujet. C'est juste, Jane ? Ouais. Et ils sont jamais d'accord, voilà, c'est ça. C'est un sujet qui amène de la tension, de la division. Et Paul désire amener un petit peu de clarté au chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Alors je vous invite à lire l'ensemble du chapitre, 58 versets, chez vous. Et ensemble, j'aimerais que nous prenions les versets 20 à 34. Qui nous dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, ça c'est fait, puisque ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. » Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et pour nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger ? Chaque jour, je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les péchés à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puis demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens, comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Il y a de l'enjeu. Et les Corinthiens n'ont rien compris. Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. On voit bien qu'il y a des malentendus, des idées fausses à propos de la résurrection. Dès les premiers versets dans les premiers versets du chapitre 15, que nous n'avons pas lu, Paul a développé toute une argumentation en soutenant que c'est impossible qu'il y ait une résurrection particulière, celle de Jésus, si après il n'y a pas de résurrection globale. On ne peut pas dire « Jésus est ressuscité » et puis dire « Ah non, mais c'est impossible que les hommes ressuscitent après. » Ça n'a pas de sens. Donc Paul est en train de défendre, de dire « Mais si Christ est ressuscité, à combien plus forte raison nous ressusciterons avec lui ?» Et Paul, dans la section que nous avons lue, va tirer des conséquences de la résurrection de Christ. Et j'en tirerai trois conséquences. C'est que si Jésus est ressuscité, la résurrection de Christ garantit l'affirmation de la résurrection future. Le deuxième point, la résurrection de Christ garantit la finalité de la résurrection. Et troisième point, la résurrection de Christ garantit la totalité de la résurrection. Et je vous propose de cheminer au travers de ces trois points. La résurrection de Christ garantit l'affirmation de la résurrection future, versets 20 et 22, où Paul affirme que cette résurrection future est une conséquence de la résurrection de Christ. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Le verset 20 s'ouvre avec des mots bien précis, mais en réalité, littéralement, mais maintenant. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Mais maintenant. Ce mais maintenant, c'est une réponse aux nombreux si qu'il y a dans les premiers versets du chapitre 15. Si vous prenez le temps de le lire, vous verrez qu'il y a plusieurs si qui sont là, s'il n'y a pas de résurrection des morts, et si Jésus n'était pas ressuscité, et s'il n'y avait pas de résurrection des morts, et si Jésus n'était pas ressuscité, oui, parce que ça se répète, beaucoup de si, mais maintenant. Mais maintenant, Paul va répondre à ces si. Alors les si, c'est des doutes qui peuvent nous habiter aussi aujourd'hui. Et si Jésus n'était pas vraiment ressuscité, s'il n'était pas vainqueur sur la mort, et si on ne ressuscitait pas après, et si après la mort il n'y avait rien? Mais maintenant, indique que Paul est en train d'introduire ici des affirmations importantes qui viendront donner toutes les réponses à ces si. Paul souligne que la résurrection de Christ n'a pas seulement confirmé l'identité de Messie et de Fils de Dieu, mais elle a aussi confirmé notre identification avec lui. Et on reviendra un petit peu plus tard sur cette notion-là. Quand Christ est ressuscité, ce n'est pas seulement son identité à lui qui a été confirmée, mais sa résurrection a aussi confirmé notre identification avec lui. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu, comme nous l'avons chanté. Adam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réussi l'exploit d'amener toute la mort à toute l'humanité. Christ, lui, amène la résurrection à toute l'humanité. Christ est ressuscité, la conséquence, c'est que l'humanité va ressusciter. Amen.
Ça conclut mon premier point. Et j'en arrive au deuxième, la résurrection de Christ qui garantit la finalité de la résurrection future. Versets 24 à 26. Après la résurrection, Paul utilise ces mots, après nous avoir parlé de la résurrection, Paul utilise ces mots, verset 24, « Ensuite viendra la fin. » Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. Alors il y a de grands débats qui existent sur la signification de ce mot « fin ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous passe ici les nombreux détails. Ce qu'on peut déduire, c'est que ce monde-là sera suivi d'un autre à venir, d'un âge à venir. Ensuite viendra la fin. La résurrection des morts, c'est un point final. Il y a quelque chose qui va commencer après. Et dans cet âge, Paul nous le dit, toute forme d'opposition à Christ, qu'elle soit sociale, politique, économique, éthique ou spirituelle, sera placée sous les pieds de son autorité. Et alors, le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et cette affirmation est soulignée par Paul avec la citation du psaume 110. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Paul va s'inspirer des psaumes pour souligner l'importance de sa théologie, dont l'âge à venir, après la résurrection des morts, il y a un autre âge, un autre règne, le règne de Christ, et toute domination sera sous ses pieds. La résurrection finale est un point final pour que quelque chose de nouveau débute. Voilà mon deuxième point. Et je vous invite à prendre quelques secondes de réflexion pendant que je vais chercher ma bouteille. Troisième point. Ça va ? Ouais. La résurrection de Christ garantit la totalité de la résurrection future. Et là, on avance un petit peu, on est au verset 27 et 28, où Paul souligne la portée de la résurrection de Christ. « Parce que Christ est ressuscité, Dieu a tout mis sous ses pieds. » Tout mis sous ses pieds. Verset 27-28, « Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. » Donc, ce que Paul nous dit, c'est que finalement, tout est soumis à Christ, sauf le Père. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose. Christ soumettra à Dieu le Père, afin que Dieu soit tout en tous. Afin que s'accomplisse le plan de Dieu. Tout est soumis à Christ. Et à nouveau, pour souligner cette importance, Paul va citer le psaume 8 qui dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. » Je trouve assez fort ce que le psalmiste a écrit bien peut-être un millier d'années avant la venue de Christ. Il a déjà écrit ça, une sorte de prophétie que Paul dit « Mais maintenant, voilà, c'est rattaché à Christ. » J'aime ces auteurs de l'Ancien Testament qui écrivaient des choses, qui voyaient un petit peu, mais pas très nettement les choses. Ils n'avaient peut-être pas pleinement compris ce qu'ils écrivaient, mais ça s'applique à Christ. Je trouve ça assez extraordinaire. Paul amène les Corinthiens à cette conclusion. Tout est soumis à Christ. Christ règnera parfaitement. Et ce n'est pas forcément évident pour nous aujourd'hui. On se dit, c'est loin, c'est chouette, mais c'est loin. Et en attendant, qu'est-ce que je galère ? Beaucoup remettent cela en question. Finalement, ça n'aura peut-être pas lieu, on ne sait pas trop. C'est un Christ spirituel qui est ressuscité, ce n'est pas vraiment un Christ corporel. Mais je crois que quand tout cela aura lieu, personne ne pourra le remettre en question. Quand Christ règnera, on sera tous stupéfaits de voir cela se réaliser. Alors c'est loin, ça fait partie de notre espérance, c'est devant nous. Et puis une question que j'aimerais poser ce matin, c'est que je suis un peu frustré de prêcher pour le futur. On me dit il faut que tes messages soient actuels, etc. Alors j'aimerais poser cette question, qu'est-ce que la résurrection future change dans mon quotidien? Qu'est-ce que le fait de savoir qu'il y a la résurrection des morts plus tard, quand, je ne sais pas, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Alors je suis désolé parce que là je vous ramène un petit peu sur terre. On était dans le ciel jusque-là, tout était soumis à Christ, Christ règne, etc. C'est magnifique, il y a eu des amens, etc. Enfin, un seul, notez. Hein. Là, on va revenir un petit peu sur terre. Peut-être la chute va être brutale. Je n'ai pas prévu de transition autre. Donc, revenons à notre concret, à notre réel. Et puis, gardons cette espérance de vue. Nous avons vu que la résurrection de Christ garantit notre résurrection également. Et ça, c'est le message que Paul désire communiquer à ses lecteurs. La résurrection finale sera le point d'orgue. Elle marquera la fin et la totalité du règne de Christ. Alors, qu'est-ce que ça change pour moi? Pour ça, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul et qu'on regarde un petit peu notre monde, le monde qui nous entoure. Et puis, j'ai relevé deux visions du monde qui sont présentes en Occident notamment. Il y a le panthéisme et le déisme. Alors le panthéisme est un courant de pensée, c'est un petit peu technique, mais ça nous permettra de prendre du recul et puis après d'avancer concrètement avec cette question. Le panthéisme, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il considère que Dieu et le monde sont la même chose, se fondant l'un dans l'autre. Dieu, le monde, finalement, c'est une seule entité qui se fond l'un dans l'autre. L'être humain peut être au contact du divin au sein même de la nature. Si vous voyez quelqu'un faire un câlin à un arbre, il y a de fortes chances qu'il cherche le divin derrière cet arbre. Dans un monde déchristianisé, cette manière de voir le monde trouve beaucoup d'adeptes. Le divin est finalement partout. Et puisque le divin est partout, rien n'est radicalement mal. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine moralité. Elle est importante pour vivre en accord avec la divinité au sein de la nature. Le panthéisme. Maintenant, venons au déisme. C'est tout l'inverse. C'est que le déisme, lui, dit il y a l'homme et il y a Dieu, il y a le monde et il y a Dieu, mais ils ne se fondent à aucun moment l'un dans l'autre. Il reste deux entités distinctes. Le déiste va dire finalement, si Dieu a envie que les humains se comportent de telle ou telle manière, il le leur dirait. On a un Dieu qui est extérieur au monde, qui a donné comme une loi morale globale à tout être humain avant de se retirer du monde. Et puis, au fond de chaque être humain, il y a une sorte de loi, un code éthique qu'il faudrait suivre. Cette pensée était très présente en Occident, dans nos contrées, pendant deux siècles, avec des conceptions du bien, du mal, et aussi un aspect légal très important. Et le christianisme n'a pas été épargné aussi par ce courant de pensée, où on a parfois été très tranchant. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tu dois suivre des lois pour arriver au ciel, pour être sauvé. Finalement, ces deux conceptions du monde, que sont le panthéisme et le déisme, s'opposent l'une et l'autre. Et on voit cette opposition dans notre monde actuellement, dans la politique, dans la sexualité, etc. Et je ne suis pas un expert en géopolitique ou quoi que ce soit, loin de moi de prétendre analyser les choses, mais quand j'ai écrit ça, je me suis dit, mais aux États-Unis, Il y a quand même un enjeu à ce niveau-là. Pas qu'aux États-Unis, mais je trouve assez marquant que il y a tout un courant de pensée qui cherche l'ouverture, et finalement, il y a comme des garants de la loi ancienne, les conservateurs qui sont là, qui deviennent encore. J'ai pris mes notes, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer, juste marquer une phrase. Je pensais que ça allait sortir comme ça. Il y a cette opposition avec des conservateurs, avec cet ultra-masculinisme, finalement. Nous, nos valeurs, c'est celles qu'on a héritées, etc. Et puis, à côté, il y a tout un élément qui cherche à s'émanciper. Ça crée des tensions. Au niveau de la sexualité aussi. Entre des lobbies LGBTQIA+, et puis parfois une réaction violente qui dit « ces gens-là ne seront pas sauvés ». Une réaction trop violente. On voit cette opposition entre cette ouverture finalement où tout est bien, rien n'est radicalement mal, et puis cet autre côté, cet héritage que nous avons où on est assez tranchant. En disant, bah oui, oui, ça c'est mal, tac, tac, tac. Et on l'est peut-être trop aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Alors, on a ces deux visions du monde. Et quelle est la vision chrétienne? C'est que finalement, la vision chrétienne, c'est naviguer sur une ligne de crête entre ces deux visions du monde. Entre une vision du monde où le divin et le monde sont unis, et puis une vision du monde où le monde et Dieu sont séparés. Et puis la vision chrétienne, c'est que finalement, Dieu et le monde sont séparés, mais pas si éloignés l'un de l'autre. Il y a des moments où le ciel et la terre se coupent et se recoupent et s'imbriquent l'un dans l'autre. Nous venons de prendre la scène, et je crois que la scène est un des moments où le ciel et la terre s'imbriquent l'un dans l'autre. Je crois que la vie d'église est aussi un moment privilégié où finalement le ciel et la terre s'imbriquent l'un dans l'autre. On vit quelque chose de divin, alors à notre portée, bien sûr. Mais il y a des moments où le ciel et la terre se recoupent et s'imbriquent. Pour les Juifs du 1er siècle, la Torah n'était pas un écrit de loi arbitraire. C'était bien plus qu'un code moral, c'était un traité d'alliance. Un traité d'alliance qui liait Yahvé à Israël. Pour eux, la Torah expliquait le contenu de la condition humaine dans son entier. La Torah était une route vers le futur. Et Jean nous dit dans son prologue que Jésus est la parole. Jésus a ouvert la voie au monde nouveau de Dieu. Non seulement le ciel et la terre se recoupent, mais aussi le futur et le présent s'imbriquent. Christ est déjà ressuscité. Il a déjà remporté la victoire, mais tout ça sera pleinement accompli plus tard. Et on vit dans cet entre-deux-là, entre un déjà et un pas encore. Prenons l'exemple du baptême. Quand on se fait baptiser, ça signifie mourir et revivre avec Christ. Et il y a là un fort écho entre le baptême et la sortie d'Égypte. Celles et ceux qui ont suivi la préparation baptême avec moi s'en souviennent peut-être. Le baptême chrétien est un écho à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Ils ont dû passer par les eaux. Il y avait un avant et un après. Et puis cet après, finalement, tout de suite après, c'était le désert. Ils visaient la terre promise, mais elle n'était pas tout de suite là. Il y a eu un temps dans le désert. Et comme les Israélites, nous sommes aussi, nous, pèlerins dans ce monde. Nous sommes en pèlerinage. Nous avons déjà la victoire par Christ, mais nous sommes encore dans ce monde à avancer. Et ce pèlerinage implique deux choses. La première, c'est renoncer. Renoncer à soi-même, renoncer à son orgueil, mais renoncer dans le but de redécouvrir quelque chose. Et la redécouverte, c'est le deuxième point. La résurrection finale n'est pas la négation de notre humanité, comme si Dieu faisait un reset total pour recommencer à zéro. Mais la résurrection finale, c'est la réaffirmation de notre humanité. Tout ce qui était bon dans la création originelle s'en trouve réaffirmé. Et en attendant, nous sommes en pèlerinage. Et ce pèlerinage nous invite à vivre une nouvelle manière d'être des êtres humains. Des êtres humains selon Jésus, selon la croix. Des êtres humains qui suivent le chemin tracé par le Saint-Esprit. Et on pourrait résumer l'éthique chrétienne comme ça. Ce n'est pas la découverte de ce qu'il y a dans le monde et se soumettre en phase avec lui qui compte. Mais l'éthique chrétienne, et je citerai un commentateur dont j'ai oublié le nom, qui dit « L'éthique chrétienne, c'est repérer dans le présent les chants que nous chanterons dans le monde nouveau de Dieu. » C'est repérer dans le présent les chants que nous chanterons dans le monde nouveau de Dieu. Et je me permettrai d'ajouter les repérer et les poursuivre. Et je crois que c'est là le message que Paul cherche à adresser aux Corinthiens. C'est que cette fin de lettre qui parle de la résurrection finale fait écho à l'ensemble de la lettre. Paul termine en soulignant l'espérance chrétienne. Parce qu'il est en train de dire aux Corinthiens, mais au fait, avec votre espérance, vous devez redécouvrir une nouvelle manière d'être des êtres humains dans ce monde. Et puis là, les Corinthiens disent, ah ouais, d'accord, j'ai compris. Du coup, ils relisent le début de la lettre. Et puis, ils se disent, mais au fait, l'espérance chrétienne me donne la force d'aimer les autres plus que nous-mêmes. Chapitre 8 et 14. L'espérance chrétienne, finalement, me donne la motivation pour l'intégrité sexuelle. Chapitre 5 et 7. Ah oui, puis l'espérance chrétienne nous donne une raison de nous unir. Chapitre 1 à 4. Je crois que le chapitre 15, l'épître aux Corinthiens, est la clé pour comprendre cette lettre. Pour redécouvrir notre identité de pèlerin et nous y conformer. Ce chapitre 15 donne du relief et du sens à l'ensemble de la lettre. Pour conclure, je n'ai pas de questions pour aller plus loin. Cette fois, je ne l'ai pas fait. Mais j'aimerais vous inviter à prendre quelques secondes de silence pour réfléchir à tout ce que nous avons partagé. À notre espérance, à notre statut de pèlerin, à notre monde, finalement à cette manière d'être des humains autrement. Je conclurai ce temps de silence par la prière.